gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquet, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
À toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu. Après cette petite, ces petits instants de bande continue après l'émission Angle Mort, puisque ben il était en avance et nous on a la bourre. Donc voilà, et ben vous êtes toujours sur Radio Canu. Donc je disais à la causerie. Alors ce soir, on est en compagnie de Clara.
Bonsoir.
À la technique, Ola et Fab aussi.
Salut, et Jean-Yves donc qui a fait une ouverture magnifique.
Merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va faire un bisou aux causeuses qui ne sont pas là ce soir. Emma, Jonathan et Nadège.
Voilà.
Non, elles sont pas bisous. Mortes, hein, c'est juste qu'elles sont pas là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ben, avant tout ça, on va vous rappeler quand même le mail. Tu peux le rappeler?
lacauseriecanu@gmail.com.
Et le blog où vous retrouvez tous les podcasts des émissions et aussi des fois des liens, etc., qui sont en rapport avec l'émission qu'on aura fait.
Et ça, c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Où vous allez sur les blogs de Radio Canu, vous cherchez la cause.
C'est ça. Sur la grille aussi de Radio Canu, il y a un lien direct. Enfin, c'est formidable, les technologies. Ce soir, trois sujets. Oui, c'est ça, trois sujets, en fait. Hein. Allez, c'est Fab, tu commences avec. Tu vas nous parler d'un truc.
Anodin.
Anodin, ouais, voilà. C'est ça, c'était le mot que j'avais.
A priori, tout le monde s'en fout.
Ouais, c'est
donc
ça.
Je me suis dit, tiens, comme tout le monde s'en fout, je vais en parler.
Ouais, c'est bien.
Bah oui, parce que bon, c'est le truc. Alors en fait, c'était juste pour vous parler d'un mot qui commence à m'agacer, c'est le mot réforme, parce que bon, on sait que dans l'histoire sociale, en théorie, la réforme, c'est aller vers un mieux. Quand on réforme quelque chose, on est censé aller vers un mieux. Bah, depuis quelques années, quand même, on se rend compte que dès qu'on nous parle de réforme, c'est pour cacher le vrai mot qui est régression. Et là, on a eu un accord qui vient d'être signé sur les retraites. Alors, sur les retraites en tant que telles, mais sur la GIRC et l'ARCO, qui sont les caisses complémentaires de retraite, c'est-à-dire c'est ce que vous touchez en plus de la retraite de la Sécurité sociale. Ce sont des caisses, comme on dit, solidaires, qui donc sont créées depuis maintenant quelques dizaines d'années, un bon petit moment. Et elles servent en fait à faire des compléments de revenus par rapport à vos revenus de base de retraite. Alors, pour être clair, la GIRC, pour ceux qui connaissent pas, c'est la retraite des techniciens et cadres, et l'ARCO, c'est la retraite des employés et ouvriers. Mmh. Voilà. Donc, il y a des gens, selon les conventions que vous avez dans votre entreprise, soit vous êtes affilié à l'ARCO uniquement, soit vous êtes affilié à la GIRC et l'ARCO. Enfin, voilà, vous pouvez avoir plusieurs types d'affiliation. Ça, faut regarder sur votre fiche de paye, parce qu'en fait, c'est de plus en plus flou. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes pas cadre, par exemple, mais vous pouvez quand même avoir la GIRC.
Oui,
c'est selon la convention de votre entreprise. Mais c'est pas le souci. Le souci, c'est que on a donc les syndicats et le MEDEF qui se sont mis autour de la table. Oui.
Tous les syndicats.
Oui. Tous les syndicats représentatifs. Hein, vous savez, en France, ça fonctionne comme ça. Et donc, ils ont été convoqués à la demande du gouvernement pour trouver une solution autour du fameux trou de la GIRC et l'ARCO. Alors, on va d'abord rappeler comment ce trou s'est creusé, juste quand même de mémoire. Hein. En fait, il a été prouvé par un truc qui s'appelle la Cour des comptes, hein, qui est quand même pas...
un repère de gauchiste.
Qui n'est pas un repère de gauchiste virulent, qui a dit, mais y a un trou, mais enfin, le trou, il vient surtout du fait qu'il n'y a personne qui paye. Et alors, le personne n'étant pas les salariés, mais étant en fait les patrons. Parce qu'en fait, je vous rappelle qu'à l'origine, quand on était créé, quand a été créée la sécurité sociale dans laquelle se trouve la retraite, hein, je vous rappelle que la sécurité sociale, c'est la retraite, la prévoyance, donc, et la santé. Mmh. C'est tout ça, la sécurité sociale, quand on en parle. Et donc, du coup, eh ben, quand ça a été créé en 47, l'idée, c'était de dire, bah, puisque vous vendez votre force de travail à votre patron, c'est normal que votre patron paye pour que vous puissiez avoir une fin de vie digne. Voilà. Donc, quand on a créé les caisses de retraite, c'était 100% le patronat qui payait. Comme pour la sécurité sociale médicale, où c'était 100% le patronat qui payait. Et puis, petit à petit, il a peur grignoté. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que majoritairement, c'est des salariés qui payent et une minorité qui est payée par le patronat. Donc, on voit déjà que, bah, là, il y a une belle arnaque parce que, bah, c'est quand même pas vous qui êtes en train de vous user au travail parce que vous êtes obligé d'y aller, que vous êtes retrouvé à payer pour pouvoir un jour vous arrêter. Oui, c'est d'aller au travail. Oui.
Mais alors, je rebondis vite, enfin, je vais pas te couper longtemps, mais tout ça, ça repose sur la manière dont on voit, en fait, le travail, quand même.
Ah bah, ça repose sur ça, et ça repose surtout sur la façon dont on estime devoir aller travailler ou pas. C'est, vous voyez la logique?
Oui.
C'est ce que tu veux dire, je pense.
Ouais,
c'est-à-dire
c'est à peu près ça.
Si on met la valeur travail au milieu de la vie, et ben en fait, on a une bonne vision un peu réac de la vie, et donc on a une vision très patronale qui dit qu'on est là pour travailler. Voilà.
C'est ça.
Et en fait, en réalité, la sécurité sociale, ça repose sur l'idée inverse. Parce que quand c'est créé au départ, c'est l'idée de dire, ça va avec la suite des fameux 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de
sommeil,
de repos et 8 heures de loisirs. Donc ça va avec les fameuses idées progressistes.
On a le droit de le dire.
Voilà. Et au départ, ça repose donc sur quand même l'idée que la retraite, on doit pouvoir en profiter.
Oui.
C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être à la retraite et puis y rester le plus longtemps possible. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, déjà, elle est tard. Bah, elle était déjà tard, hein. Vous rappelez qu'on est passé de 60 à 62 ans. Et ben maintenant, elle va être un peu plus tard. Parce que les partenaires sociaux, comme on dit, hein, voilà, enfin, ceux qui veulent se faire appeler partenaires sociaux, je rappelle quand même un truc intéressant, c'est qu'on oublie de dire dans la presse très souvent que aussi bien Force Ouvrière que la CGT refusent le terme de partenaire social. Ils ne se vivent pas comme tel, mais comme syndicat. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Parce que partenaire, ça sous-entend qu'on est main dans la main et puis qu'on va trouver une solution. Syndicat, c'est qu'on défend pas les mêmes antagonistes. On ne défend pas les mêmes choses,
c'est ça,
donc
c'est
qu'on est antagoniste avec le patronat. C'est pas tout à fait pareil.
Mais ça on voit toujours sur cette notion de comment on voit le travail.
Exactement.
Quelque chose d'inévitable ou une chose sur laquelle il faut absolument agir pour essayer de réduire le temps qu'on y passe, etc.
Exactement.
Etc.
Donc en fait, ces deux syndicats-là, ils ont refusé de signer le nouvel accord. Par contre, il y en a trois qui, eux, se vivent comme des partenaires sociaux, c'est-à-dire la CFDT, la CFTC. Alors, je vous rappelle les sigles, hein, CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, la CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, et la CFECGT, Confédération française de l'encadrement, Confédération Générale des Cadres. Voilà, donc ces trois organisations ont signé un accord qui va faire en sorte que bah, vous soyez obligé de travailler jusqu'à 63 ans.
Mais
voilà.
C'est formidable. Quel progrès, dis donc.
Eh bah ben oui, parce que comment ils y sont arrivés? Ils ont simplement suivi les préconisations du MEDEF. C'est la première fois qu'on voit
génial,
ça, hein. C'est extrêmement rare que ça se passe comme ça. Le MEDEF arrive avec une feuille de route et en fait, trois syndicats qui donc représentent la majorité du coup, parce que je vous rappelle que la majorité repose sur la façon dont on vote dans les entreprises. Donc ben, ce sont les trois syndicats majoritaires aujourd'hui, ensemble. Et ces trois syndicats, eh ben, ils ont simplement choisi de suivre le MEDEF. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas négocié à la marge quoi que ce soit. Ils se sont couchés, il n'y a pas d'autre mot, devant la proposition du MEDEF. Et la proposition du MEDEF, c'est de dire, si les gens partent à 62 ans, eh ben, la complémentaire, on leur enlève 10%. Voilà.
C'est formidable. Donc, tu t'es fait chier.
C'est génial, non?
Jusqu'à 62 piges.
Oui, on l'enlève 10%.
Que, bah, si tu veux prendre ta retraite, t'attendras.
Alors, et c'est bien.
Top,
parce que ces syndicats, ils disent, ouais, mais c'est pas grand chose, 10%. Les gens qui voudront partir, ils pourront partir. Alors, je vais juste rappeler c'est le monsieur de la CFDT, le grand patron qui a dit ça. Alors, je vais juste lui rappeler un truc. La retraite moyenne en France, c'est à peu, la retraite moyenne des ouvriers en France, enfin, ouvriers employés, hein, c'est environ 560 euros. Ça, c'est la retraite de base sans l'ARCO. Donc quand vous rajoutez l'ARCO, vous arrivez autour de 850-900 euros. Mais quand vous enlevez 10% à cette différence-là, ça veut dire qu'en gros, vous enlevez 10% de 400 euros. Donc 40 euros par mois. Hein, c'est... Voilà, alors quand on commence à le voir comme ça, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire bah, « c'est rien 10% ». Bah si, sur une retraite de 900 euros, c'est énorme 10%. Sur la retraite complémentaire. Alors le patronat, quand même, parce qu'il voulait pas passer pour un total salaud, des fois il aime bien, il a dit bah, on va mettre à partir de 63 ans, les gens ils touchent tout normalement. Voilà. Mais s'ils veulent travailler jusqu'à 64 ans, et ben là, ils peuvent toucher 10% de bonus pendant 4 ans.
Mais c'est formidable.
J'ai pas dit pas beau ça.
C'est génial. Ta retraite, c'est un pur produit en fait.
Voilà, c'est un produit capitaliste comme un autre.
C'est ça.
Donc c'est voilà. Donc le but, bah très clairement, hein, c'est de monter la retraite à 63 ans, parce qu'en réalité, on sait bien que le gouvernement va s'aligner à terme sur ces 63 ans-là en disant, bah les gens vont pas partir avec une décote de 10%, donc on va aller à 63 ans. On voit bien vers quoi on va aller. Mais plus grave encore, c'est que quand on commence à créer l'idée que plus on travaille, plus on va toucher avec cette fameuse prime de 10%, c'est de pousser les gens à se tuer au travail. Parce que je vais rappeler un petit truc qui vient d'un autre organisme gauchiste à fond, l'OCDE, pardon. Oui. Pas du tout l'OCDE. L'OCDE qui a fait une étude et qui prouve que chaque année de plus au travail, au-delà de 60 ans, c'est 3 années de vie en moins à la retraite. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on va récupérer les caisses. C'est-à-dire que vous avez travaillé 3 ans de plus, vous mourrez 9 ans plus tôt.
C'est génial.
Si on prend la moyenne comme ça.
C'est génial, mais alors,
voilà.
Pardon, je trouve que ça reprend un truc quand même que plein de gens ont totalement hué, quoi. C'était ce truc de travailler plus pour gagner, plus.
On est typiquement dans cette logique-là.
Oui, et c'est encore une fois un gouvernement qui se dit
de gauche,
socialiste.
Bah, là encore, le gouvernement, il n'y est pas pour grand-chose parce que c'est les partenaires sociaux, comme on dit. Donc, c'est-à-dire, c'est les syndicats et le patronat. Donc, lui, il ne va que entériner la loi. Non, je dis ça en plaisantant, hein, total. Mais oui, on voit bien qu'il y a une logique. Voilà, on voit que la nouvelle ministre du Travail, Myriam El-Khomri, je crois, c'est El-Khomri, je crois, je ne sais plus son nom, pardon, et l'ancien Rem Samen ont applaudi des deux mains l'accord, quoi. Et du coup, voilà, on voit bien qu'il y a vraiment l'idée que ça, c'est merveilleux. Alors, c'est inquiétant parce que la nouvelle ministre du Travail, elle va être aussi celle qui va réformer le Code du Travail. Et elle applaudit déjà des deux mains un accord qui est 100% MEDEF. Alors, je vous laisse imaginer ce qui va se faire dans les deux ans en termes d'explosion du Code du Travail. Mais pourquoi ça arrive maintenant? Parce que, honnêtement, le gouvernement, je pense, regardait ce qui allait se passer avec cet accord-là. Or, il y a eu une manif le 8 octobre contre cette réforme-là et pour les 32 heures. Et bien, dans cette manif, il n'y a pas eu grand monde au niveau de la France. Et puis, la manif suivante, la semaine d'après, il n'y a eu personne, quasiment. Et bien, c'est pas compliqué, hein. Quand un gouvernement voit qu'il n'y a personne dans la rue, et qu'en plus, on vient de dire aux gens qu'ils allaient travailler un ou deux ans de plus, bon, ils se disent pourquoi je me priverais d'exploser le code du travail en plus. Donc, dans les deux ans à venir, si on ne se bouge pas, je peux vous dire que ce n'est pas simplement l'âge de la retraite qui va changer, c'est tout. Parce que ce qu'on est en train de nous mettre sur la table, c'est des accords majoritaires. Alors là, un accord majoritaire, c'est très très marrant. C'est en fait tout simplement une gestion à l'anglo-saxonne ou à l'allemande. Soit vous avez des syndicats très très forts dans votre branche, et là tout va aller à peu près bien, parce que vous pouvez négocier des accords pas trop dégueulasses qui vous permettent effectivement de travailler moins longtemps, de voir des retraites plus tôt, des choses comme ça. Mais dans la majorité des entreprises en France, et d'ailleurs la majorité des entreprises dans le monde, les syndicats sont faibles. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une négociation d'accord majoritaire? Eh bien, généralement, ils sont inférieurs à ce que la loi pouvait vous donner. Donc, on va voir des entreprises repasser aux 40 heures. Donc, on va voir des entreprises diminuer le nombre de congés payés. Donc, on va voir des entreprises diminuer le nombre de RTT, du coup, hein, ça va avec. Donc, on va voir des entreprises diminuer le salaire minimum, passer en dessous du SMIC en disant, on est obligé pour la compétitivité. Et tout ça avec l'aval de certains syndicats traîtres qui sont très, très bien installés à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'ils peuvent tout signer. Donc, vous voyez, c'est un petit peu l'idée qui va se passer dans les mois à venir. Donc je voulais parler de ça parce que les gens, j'ai l'impression, font comme si ça n'existait pas ou se résignent, alors qu'en fait il suffit des fois de se battre pour que ça passe pas, et que que là on est face vraiment à quelque chose d'assez fou. Alors je veux juste te dire, il y a une petite parenthèse sur la ministre qui s'est plantée sur le CDD combien de fois machin chez Bourdin, voilà. Alors elle m'a beaucoup amusé parce que on voit déjà l'argument qu'elle a à chaque fois. Madame El-Khomri, à chaque fois qu'on l'attaque, en fait, elle a un argument de dire si on m'attaque, c'est parce que je suis pas d'origine française. Voilà. Alors, je voudrais juste dire, Madame la ministre, que en fait, non. Si vous attaquez, c'est que vous êtes de droite. C'est juste pour ça, en fait, et que vous avez une politique de droite, et que vous avez une politique libérale, et que donc, oui, on va vous en mettre plein les dents, parce qu'à un moment donné, vous êtes la représentante de l'État qui cherche à juste flinguer ce que des travailleurs ont mis des dizaines d'années à obtenir par la lutte. Voilà, c'est juste ça. Il va falloir que vous y fermiez, madame la ministre, c'est pas bien grave. Donc, mais voilà, juste qu'elle comprenne que c'est pas contre elle. Enfin si, mais c'est contre sa fonction avant
c'est
tout.
Ça.
Voilà, et pas elle en tant qu'individu.
C'est ça.
Et je trouve qu'elle a été très bien choisie.
Oui.
Parce que justement, elle a tout de suite trouvé l'argument pourri pour essayer de pourrir le débat dès le départ. Et ça, c'est grave parce que c'est se servir de ce que subissent des millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire de la discrimination, au profit du libéralisme le plus crasse. Voilà. Et on en a un bel exemple. Voilà, je voulais juste le dire.
Ouais. Bah, ça se passe de commentaires. On passe à la ZIC. Allez.
Ludwig. Radio Canus en 2-2, la causerie. Bon, c'était les Ludwig von 88. J'avoue, c'est fin comme une poutre qu'on se prend dans l'œil. Mais c'est toute mon enfance, toute mon adolescence. Et ça m'avait manqué, donc je vous ai remis un petit coup des Ludwig avec nous. Voilà. Qui est un hymne à aller défoncer ceux qui nous oppressent. Bon, c'est pas dit avec finesse, mais ça fait du bien. Voilà. Et Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'un truc qui ne touchera personne.
Non, effectivement, et qui est encore une belle initiative d'un gouvernement socialiste et progressiste.
Et national socialiste. Pas encore, ça viendra.
Et c'est donc la remise en place de contrôle aux frontières. En vue de la COP21, vous savez, cette grande bouffonnerie étatique internationale. Hein.
Ah oui, le truc sur le climat, là.
Oui, c'est ça. Ils vont
la 21e réunion des chefs d'État autour du climat.
Ils vont tous être réunis pour sauver notre vie.
Oh cool.
Ça va être beau, hein.
Ça va être chouette.
Ça va être génial.
Et c'est là qu'on met une bombe. Ah pardon, excusez-moi, ça m'a échappé.
Non mais c'est là que je repense à ce qu'on parlait la semaine dernière sur les ventes d'armes, etc.
Ouais ouais.
Donc, mais en fait, il y a plein. On se retrouve pour le climat, mais on vend aussi plein d'armes. Enfin bon,
Ouais, mais de toute façon, c'est ce qu'il disait sur une chaîne Arte, je crois, qu'il disait que la COP21 va être le plus grand moment de rencontre aussi des industriels qui vont se donner des contrats entre eux à ce moment-là. Donc c'est
bah,
marrant.
Attends, c'est une réunion entre amis, quoi.
Voilà, c'est ça.
Et donc effectivement. C'est Bernard Cazeneuve, qui est donc ce monsieur de l'intérieur, qui a annoncé ça le 6 novembre.
Sur une chaîne de droite.
Oui, c'est ça. BFM. En même temps, est-ce qu'il y a des chaînes de gauche?
Non, peut-être pas, mais c'était sur une chaîne. Pardon. C'était sur Business FM.
C'est ça.
Business FM TV.
BFM, ouais. BFM. C'est ça. Et donc cette remise en place des contrôles aux frontières aura lieu pendant un mois, du 13 novembre au 12 décembre. Donc c'est des mesures qui ont déjà été mises en place, hein, rassurons-nous, hein, sauf qu'on en parlait moins.
Et il rouvre le 12, c'est pour que le Père Noël passe, c'est ça?
Bien, le 13.
Ah, le 13, oula,
oui, attention. Le 13, effectivement. C'est, bah oui, il faut quand même laisser faire le commerce. Hein.
Bah oui. On déconne quand même.
Non, on déconne un petit peu, mais c'est hyper sérieux, quoi.
Mais ça veut dire quoi, hein, quand tu dis qu'ils vont fermer les frontières? On va faire comme la Hongrie?
C'est
ce qu'ils disent.
C'est des contrôles, ouais, qu'on pourra faire sur la route, sur les voies maritimes, sur...
Les voies aériennes? Enfin, dans les aéroports, tout ça?
Oui. Je suis désolé, mais il y avait un truc, effectivement, qui était un peu plus précis que ça.
D'accord.
Mais, bah oui, et donc on pourra contrôler. Alors, qui vient?
Mais qui contrôle? Les douaniers, la police, tout le monde, du coup, l'armée, la police, les douaniers, ça donne tout pouvoir pour le contrôle des frontières, c'est ça?
C'est une très bonne question.
Non, mais c'est ça.
À laquelle je n'ai pas la réponse.
Si, à laquelle j'avais cherché, c'est écrit.
Ah, ok.
Ça me fait écrit sur mon cahier.
D'accord, donc c'est un apport à.
Oui, c'était pour dire que moi, je m'étais posé la question, est-ce que c'est que les douaniers? Est-ce que vu qu'ils ont flingué tous les douaniers, il n'y en a presque plus, donc je me suis dit, bah, ça va pas être grand chose.
Ouais, et puis ils sont sur le trafic de shit. Hein.
Voilà, c'est vachement important, ça, il paraît. Et non, en fait, effectivement, ça donne tout pouvoir, en fait, de contrôle et de coercition à l'armée en cas de demande du président de la République, la police, ça c'est le ministre de l'Intérieur, et police et gendarmerie, et les douaniers. Voilà.
Voilà. Et donc, bon, effectivement, ce fonctionnement-là a déjà eu lieu, c'était en 2009, c'était pour le sommet de l'OTAN qui avait eu lieu à Strasbourg. C'était aussi pour le G8 à Deauville et le G20 à Cannes en 2011. Et ce sont, alors effectivement, hein, tout de suite, Cazeneuve s'est planqué derrière le fait que, attention, hein, non, ça a déjà été fait ailleurs, au Danemark en 2009, en Pologne en 2013. Enfin, mais nous, on fait rien de spécial, quoi, tu vois.
Ouais, mais ce que je comprends pas, justement, c'est pourquoi, alors que ça s'est déjà fait, ou on en parle autant, ou comment?
Bah, alors après, moi, c'est des questions qui
se posent. Je suis d'accord avec Cazeneuve. Hein.
Non,
mais c'est marrant que là, cette fois-ci, de seul coup, ça sort dans tous les médias mainstream,
alors,
comme on dit.
Ouais, mais alors là, alors déjà l'info, effectivement, au départ, elle a été balancée par Bastamag, en fait, ouais, qui est un média, on va dire, alternatif, si on peut l'appeler comme ça, qui l'a sorti en fait le 29 octobre en publiant le document complet de la demande de la France à Bruxelles, en disant que, enfin, c'est même pas une demande, c'est en disant que ils vont refaire des contrôles aux frontières.
Parce que c'est une dérogation à Schengen temporaire.
Ouais, c'est ça.
Des accords de libre circulation Schengen.
C'est ça. Et donc, on nous dit bien, attention, c'est exceptionnel. Hein, vraiment, mais tu te dis déjà, c'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, en fait, ils étaient 60 ministres à Paris.
Ouais, mais le ministre, ça coûte rien, on peut le flinguer, lui, après.
Et il n'y avait pas, et c'est pas encore dans le moment de contrôle des frontières. Donc là, l'autre question, c'est effectivement, Cazeneuve disait, il peut y avoir un danger pour l'ordre public. Et nous avons été quand même sous une menace terroriste. Alors là, tu te dis, mais... Alors, nous avons été sous une menace terroriste...
C'est qu'on n'est plus.
C'est qu'on a été. Je veux dire, je ne suis pas très bon en français, de loin pas. Ce n'est pas ma première langue, mais à un moment donné, j'ai un peu quelques notions de temps.
Mais peut-être que lui aussi, il n'est pas bon en français.
C'est vrai, effectivement. Ça me laisse un espoir, je pourrais peut-être être ministre un jour. Pardon. C'est très intéressant aussi, parce que ce qu'ils veulent surtout éviter, c'est même pas une forme, c'est une solidarité européenne, ouais, parce qu'il y a quand même une organisation de contre-mouvement, enfin de contre-manif, etc., qui sont prévus. Enfin, il y a quand même une mobilisation qui m'a l'air assez importante au niveau européen.
Ouais, puis qui est assez large parce que ça va des mouvements écologistes citoyennistes.
C'est ça, ça va des colibris, on va dire.
Voilà, au mouvement anarchiste. Voilà,
c'est ça.
Européen.
Et
Black Bloc.
Au Black Bloc, ce qui effraie l'État et ce qui en tout cas sert à l'État à effrayer tout le monde.
C'est sûr, ce qui met des coups de pied au cul à l'État lui fait toujours peur. Ça,
c'est ça. Donc c'est toujours, encore une fois, c'est aussi une criminalisation préventive en fait de tout mouvement social. C'est que là, on fait déjà passer ce mouvement, ce potentiel mouvement de lutte quoi. Ouais. Et c'est ça quoi, comme un danger. Donc c'est quand même là aussi, hein, enfin c'est encore une fois une preuve que ben ces hauts dirigeants, tous ces dirigeants, toute cette classe bourgeoise, finalement a vraiment peur des réactions organisées ou un minimum organisées des gens, des citoyens. Mmh. Et c'est très drôle quoi. C'est que là où l'Europe, eux, arrive pas à être solidaire, les États, hein, je parle, pour s'entraider. Et ben en fait, ils supportent pas la solidarité des citoyens en fait. C'est quand même vachement intéressant. Je trouve politiquement, c'est très intéressant.
Bah oui, mais ça prouve surtout que les humains ont tendance à s'allier très facilement,
oui,
là où les gouvernants cherchent à nous diviser.
C'est ça.
C'est un bel exemple. Hein,
c'est un peu ça, ouais, c'est un peu l'idée.
Ce qui me dégoûte encore plus, c'est la phrase de Cazeneuve qui met dans la même phrase en fait le mouvement social et les terroristes islamistes. Alors ça, tout se vaut. Hein, a priori, une grève, une manif, c'est au même niveau que des gens qui vont flinguer des gars dans un journal. Enfin, c'est juste ou même dans un hyper cachère. C'est juste un truc de dingue. Quoi.
Ouais, c'est quand même toujours cette technique qui remplace, je pense quand même, pas depuis un an ou depuis deux ans ou depuis que les socialistes sont là, ou ni depuis janvier.
C'est
toujours cette criminalisation des mouvements sociaux. On y reviendra effectivement avec le dernier sujet, mais c'est toujours cette criminalisation, en fait, faire passer toutes les personnes qui luttent pour le progrès.
Ouais.
Ils luttent pas pour des choses, tu vois, qui sont rétrogrades, on va dire, quoi. Mmh. Et ben, eux, on leur empêche de se rassembler et on en a peur.
Ben, moi, je vais dire un truc qui n'engage que moi, mmh, mais vraiment que moi. Pour le climat, c'est foutu. Voilà, c'est gênant, mais je vous le dis comme ça. Enfin, je vous dis
c'est
ça
bizarre.
aux auditrices et aux auditeurs. Je le dis très franchement. J'ai la même position qu'un gars qui s'appelle Fabrice Nicolino et que plein d'autres gars pour le climat ou l'association Andrésia qui fait du très bon travail. C'est foutu parce qu'en fait, on sait qu'on va dépasser les 2 degrés, qu'on va aller sûrement vers 3 voire 4 degrés de plus en 2100 et que là, on sait pas ce qui va se passer. Très honnêtement. Il n'y a pas de moyen de prédire. Alors peut-être que ce sera très peu de choses, peut-être que ce sera beaucoup de choses, mais en tout cas ça va être des trucs, voilà. Mmh. Et ce qui est dingue quand même, c'est qu'on a des gouvernants qui se réunissent pour ralentir les choses face à des citoyens qui eux se réunissent pour accélérer les choses. Et donc on voit comment on se protège, c'est-à-dire qu'on voit qui on va taper, c'est-à-dire c'est pas les gens qui ralentissent, c'est ceux qui accélèrent.
Mais, oui.
Mais pas accélérer le réchauffement, hein, pour qu'on évite ça.
Mais
quoi.
Oui, et puis enfin là je pense tout de suite à rigueur aux ZAD, etc.
Mais oui.
Je veux dire à la mort de Rémi Fraisse tué par l'État,
ouais,
qui encore une fois une preuve que le progrès auquel les citoyens, ou en tout cas l'amélioration des conditions auxquelles certains citoyens, citoyennes, ou des gens quoi, militent et luttent, ben eux en fait on préfère les criminaliser, les tuer et se gargariser entre chefs d'État et se dire on va tous vous sauver.
Ça se voit à tous les niveaux, mais même à des niveaux très très locaux, et très pragmatiques. À Lyon, il y a une grande étude, enfin, on peut pas dire étude, mais on va dire sondage dans la rue qui a été fait par plusieurs associations pour le vélo.
Ouais.
Et en fait, ils ont interrogé, je crois, 700 ou 800 Lyonnais. Donc, c'est un panel à peu près équivalent à ce qu'on a dans les instituts de sondage. Ouais. Voilà. Et en fait, donc, ils leur ont demandé, est-ce que s'il y avait des pistes cyclables en dur, c'est-à-dire une voie réservée au vélo, plutôt que d'avoir une petite bandelette dessinée au sol en disant, croise les doigts pour que personne ne se soit garé, mais une vraie piste cyclable en dur, est-ce que vous prendriez plus votre vélo? Et je crois qu'ils sont arrivés à quelque chose de 70% de gens qui étaient d'accord avec cette idée-là. Mmh. Et il y a des pays qui l'ont fait. On voit, il suffit de monter dans le nord de l'Europe, vous allez à Amsterdam. Amsterdam, centre-ville, il est que vélo. Il y a plus de voitures quasiment, à part pour les livraisons et pour les personnes à mobilité réduite, comme on dit. Mais il y a, voilà. Donc ça peut se faire. Mmh. Mais qu'a répondu le Grand Lyon à ça? On va faire plus de petites bandes cyclables sur le côté. Et c'est pas ça que les gens ils veulent. Donc vous voyez, même quand les gens ils s'expriment en disant mais on a la solution, il y a pas de problème, on est prêt à faire un effort, à changer un mode de déplacement, voilà, en donnant une solution, mais qui est toute conne, hein, je veux dire. Eh ben on dit non. Et on parce que il y a derrière le lobby de la bagnole, parce qu'il y a derrière le fait qu'on a fait un grand stade et qu'il faut bien faire la voiture.
Bah oui.
Hein. Le fait que le pétrole ça alimente beaucoup de gens, donc on est bien content qu'on le crame. Bah il y a tout ça derrière, mais c'est de l'économie, c'est pas du complot. Hein.
Ah non, mais clairement pas. Non, mais clairement pas.
C'est du lobbying et de l'économie.
Ah bah bien évidemment, ouais. Tout est politique. Ouais. Eh bien,
j'avais une petite question.
Je n'ai peut-être pas de réponse.
Non, mais je te demande ça parce que c'est, je trouve ça assez marrant. C'est que, enfin, assez marrant, assez flippant plutôt. C'est que donc Cazeneuve, il annonce ça parce qu'on a les 60 chefs d'État là, et il compte faire quoi pour le mondial de foot du coup? Non, l'européen là, le foot. Parce que c'est bientôt ça en France, c'est l'année prochaine. Donc on va faire pareil, on va fermer les frontières pour que les supporters rentrent pas pour aller dans les stades.
Bah je sais pas.
Parce que c'est.
Je sais pas.
Non mais c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que là on a 60 Pékin qui vont se réunir. Bon bah c'est les chefs d'État soit, mais si c'est demain on va avoir des stades complets remplis de plein de gens. Et là, on dit, enfin voilà, donc c'est vraiment une excuse bidon pour casser le mouvement social,
je pense. Ou alors, ça veut dire qu'il va falloir s'attendre à avoir l'armée dans les rues, à tous les coins de rue pour un non, quoi. Pour un truc loisir de football, quoi.
J'espère que ce sera pas ça.
Bah non, j'espère pas non plus. Ben, on passe à la ZIC.
Allez, champagne.
Allons-y.
Eh bien, vous êtes bien à la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Goran Bregovic avec le titre Champagne for Gypsies.
Et c'était quoi son groupe?
C'est And the
Is Wedding and Funeral Orchestra.
Orchestral.
Voilà, ouais, c'est ça. Super. Et ça permet de faire un petit coucou au petit bazar et en particulier à Nico,
ouais.
qui pas cette semaine mais la semaine d'avant avait fait une superbe émission sur les musiques gypsy et que je vous conseille d'aller réécouter parce qu'elle était vraiment bien. Voilà.
Et pareil, ça se passe sur les blogs de Radio Canu.
Au petit bazar, sans E à petit.
C'est ça. Je suis un petit bazar.
Je suis un petit bazar.
Et ben pour le troisième
sujet. On a fini. Ah non, on n'a pas fini, pardon. C'est le troisième sujet.
Ouais, ouais, troisième sujet. Et ben, troisième sujet. Je te le laisse.
Oui, et ben alors, pour ceux qui avaient suivi le mois de novembre libertaire, et ben, il y avait une petite, une petite projection. Enfin, pas une petite, une bonne projection qui a été faite à la MJC du Vieux Lyon. Et c'était, je me rappelle même plus, jeudi 5 novembre. Voilà. Et a été diffusé le film Howard Zinn, une histoire populaire américaine. Et c'est la première partie qui s'appelle Du pain et des roses. Voilà. C'est un film de Daniel Mermet et d'Olivier Hazan. Et c'est un film qui part du point de vue d'Howard Zinn pour raconter l'histoire sociale américaine. Et c'est hyper intéressant parce que ça rappelle des choses qu'on a un peu beaucoup oubliées.
Effectivement. Alors je voulais juste rajouter avant qu'on continue plus en détail sur le film, c'était que c'est édité par les Mutins de Pangée.
Ah oui, tout à fait.
Et que c'est une coopérative qui fait des trucs vachement bien et qui fait appel au soutien de toutes et tous. Donc voilà, on avait déjà parlé un peu des Mutins de Pangée dans une émission précédente, mais voilà, je voulais le préciser
c'est
quand même.
C'est eux qu'il faut Bernard, ni Dieu ni Chaussette.
Ni Dieu ni Chaussette.
Qu'on avait présenté, voilà.
C'est ça. Et qui en font plein d'autres aussi.
Et plein d'autres, allez-y, il y a vraiment des très très bons films sur les Mutins.
C'est ça. Et donc, effectivement, alors de quoi qui nous cause ce doc, ce film, ce machin?
Ah ben, en fait, il nous parle de nous. Alors, il nous parle, pas de nous directement, parce qu'il parle des Américains, mais il parle de la classe ouvrière américaine, hein, pour employer des gros mots. Et voilà, et il parle des migrants qui sont arrivés aux États-Unis, et il parle des luttes sociales qu'il y a eu aux États-Unis. Et il rappelle, en fait, tout simplement, qu'à cette époque-là, c'est-à-dire entre 1840 et 1917, avant que les États-Unis rentrent en guerre dans la Première Guerre mondiale, eh ben, les luttes sociales aux États-Unis, elles reposaient sur notamment une organisation, la IWW, Industrial Workers of the World, qui était d'inspiration anarcho-syndicaliste et qu'elle menait des luttes très 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 violentes et souvent très 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 victorieuses face au patronat américain. Et bien quand on entend ça, on a l'impression qu'on nous parle de quelque chose qui n'est pas vrai, sauf que tout s'appuie sur des documents, filmés ou pas, parce qu'il y avait des films d'époque, écrits, enfin voilà, c'était un vrai film de recherche hein, autour de... Voilà. Et Howard Zinn, qui était, parce qu'il est mort, qui était historien de formation, mais après la guerre, la seconde cette fois-ci, lui, il s'est intéressé à l'histoire populaire. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'on nous écrivait l'histoire avec des grands noms, George Washington, tout ça, mais qu'on parlait jamais des petites gens qui, eux, se battaient. Et puis, il explique un petit peu au Howard Zinn que, on transforme la réalité très facilement. Alors, par exemple, il explique que, la guerre anticoloniale américaine, appelée révolution américaine, c'est-à-dire pour chasser le colon anglais hors des terres américaines, qui sert un petit peu d'appui à beaucoup de gens aujourd'hui pour exemple, elle n'était pas aussi tranchée que ce qu'on veut bien nous dire. En gros, il y avait qu'un tiers des Américains qui voulaient chasser les Anglais. Les deux tiers qui restaient, soit ils survivaient, soit ils s'en foutaient, pour être très clair, et qui en fait il n'y en avait qu'un tiers qui avait envie de... Voilà. Et que pour arriver à faire cette fameuse révolution, on a fait appel à la conscription. C'est-à-dire qu'on a envoyé des petits gens se faire tuer. Et puis la conscription, c'était les grands industriels hein, qui la demandaient. C'était pas les gens eux-mêmes, hein, parce que finalement, ils se rendaient compte que c'est un peu ce qu'ils racontent dans le film, qu'en fait, il y avait beaucoup d'endroits aux États-Unis où on s'auto-organisait, parce que comme le gouvernement, il n'avait pas la possibilité de venir, et puis que vu la taille des États-Unis, ils s'en foutent un petit peu que le gouvernement, ils soient anglais, américains, français, ça n'avait aucune importance pour eux, parce que de toute façon, c'était la démerde de l'autogestion. Donc voilà. Et qu'en fait, on est venu les chercher chez eux, par exemple, c'est un exemple qui est donné dans le film, pour faire la conscription, et les envoyer s'entretuer avec leurs frères, hein, parce que les Anglais faisaient la même chose en face. Donc voilà, c'est magnifique, et on voit comment les guerres sont toujours les instruments de gens qui eux ne s'entretuent pas, mais on voit s'entretuer les peuples. Voilà, c'est un exemple, hein,
y en a plein. Enfin vraiment, c'est...
après je sais pas, on va peut-être pas tout donner, mais enfin
il y a la grande grève de 1912.
Ça, ils reviennent aussi sur le 1er mai. High Market en 1885, où ensuite il y a des anarchistes qui ont été
exécutés
parce qu'ils auraient soi-disant fait du mal. Mais là encore une fois, on retombe sur ce qu'on disait avant, sur la criminalisation tout mouvement social en fait.
Il parle de ce qu'on appelle les infiltrés, c'est-à-dire et c'est prouvé en plus.
Oui, c'était les milices pro-patronales en fait qui s'infiltraient dans les manifs, etc.
Pour les faire dégénérer.
Voilà. Donc c'est vachement intéressant parce que c'était encore une fois l'organisation de la classe dominante, de celle qui possède, contre ceux qui aimeraient juste vivre. C'était vachement c'est vraiment très intéressant. Il y avait aussi sur les enfants qui se sont organisés, qui ont commencé à mettre en place, à faire grève. En disant, en fait, on veut aller à l'école, nous.
Oui, voilà.
Notre place, c'est pas l'usine. Et c'est vraiment, c'est hyper intéressant. Et justement, justement, je trouve que tout ça, ça soulevait un truc. Et c'est Howard Zinn qui le disait lui-même. C'est qu'aux États-Unis, on a tué toute notion de lutte de classe.
Tout à fait.
Politiquement, on ne parle absolument pas de lutte de classe. Il le dit, aux États-Unis, on n'en parle pas. Mais ça n'existe pas.
Il explique que c'est après la guerre de 1917 qu'en fait la propagande américaine a été extrêmement bien menée par un journaliste d'ailleurs dont j'ai perdu le nom, mais il est dans le film.
Je l'ai pas.
Qui en fait a fait abandonner l'idée de classe autour de la notion de patriotisme.
Ouais.
Et que en fait, il a fait croire aux gens qu'il y avait une sorte d'American way of life et qu'on pouvait par exemple commencer fileur dans une filerie de laine et terminer président des États-Unis. Sauf qu'en fait, quand on regarde les faits dans l'histoire, ça n'arrive jamais. Même aujourd'hui, Ben Carson, là, qui est le numéro 2 des Républicains, qui fait croire qu'il a eu une enfance difficile dans des quartiers et tout, il y a des journalistes qui ont fait des recherches qui se rendent compte que, en fait, c'est pas aussi clair que ça. Il n'est pas issu vraiment il n'est pas vraiment très pauvre au départ, quoi. Et qu'il a un petit peu bidonné son CV, comme on dit. Donc voilà, c'est intéressant parce que Howard Zinn, il explique tout ça et il explique avec des mots simples. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un historien chiant. Et voilà, il le fait avec des mots simples et il le fait avec les mots des gens, en fait, qui l'intéressent. Et donc, il parle vraiment à hauteur de... comment il le dit ? Ah oui, à hauteur de manard. Et c'est intéressant de voir ça parce que, voilà, il parle vraiment comme parlent les manards, mais c'est pas quelque chose de grave. Moi, c'est un mot que j'affectionne beaucoup, manard.
Ça fait vraiment du bien, justement, parce que je trouve qu'on parle de... je sais pas comment dire, de ceux dont on parle pas si souvent. Parce que même dans les milieux... qui se revendique je ne sais quoi, en fait on se gargarise beaucoup de ce qu'on a appris dans les universités sans avoir fréquenté en fait les usines, et on vient encore une fois se gargariser en parlant de lutte des prolétaires, truc, mais des mots que t'as jamais connus, quoi,
t'as jamais vécu
c'est tout le truc, quoi. Et je trouve que là c'est vraiment, enfin je trouve que ce documentaire, c'est redonner une forme de fierté en fait à ceux d'en bas, quoi, en fait.
Et à ceux qui luttent, surtout.
Moi, à ceux qui luttent, effectivement.
Ce qui est super bien, c'est que le documentaire... Alors, surtout, il donne un exemple. Je parlais de la grande grève de 1912. Parce que pour Howard Zinn, c'est le contre-exemple total de ce qu'on est en train de vendre aux États-Unis. C'est-à-dire le chacun chez soi, chacun dans sa communauté, chacun et machin. Et Howard Zinn, il dit, mais c'est complètement débile. Parce que ce qu'on vend aujourd'hui aux États-Unis, c'est ce qui, en fait, fait que ce qui s'est passé avant ne marche plus. Et en 1912, il explique que dans la grande grève de je ne sais plus quelle ville, j'ai perdu. Donc, tu vas peut-être la retrouver, parce que toi, tu l'as sous les yeux. Jean-Yves,
La victoire en chantant à Lawrence en 1912.
Voilà, c'est Lawrence, la ville de Lawrence. En fait, les ouvrières, parce que c'était majoritairement des femmes, se mettent en grève au départ et elles parlent à l'époque 12 langues différentes. C'est-à-dire qu'elles parlent 12 langues, elles viennent de plein de pays différents parce que ce sont des vagues de migration qui arrivent aux États-Unis. Elles ne parlent pas la même langue, elles n'ont pas la même culture entre guillemets d'origine, elles sont là et elles arrivent à s'organiser autour d'une idée toute bête, c'est que la lutte des classes, c'est la classe là qui en prend plein la gueule, c'est la leur. Donc il faut aller taper sur celle qui les opprime. Et en fait, c'est l'unité, et ils expliquent très bien dans le film, par exemple, que on envoie même des traducteurs. C'est-à-dire que l'IWW envoie des gens qui parlent 5, 6, 7 langues pour pouvoir faire un petit peu la traduction des textes, passer les infos et tout. Et ça se fait.
Ouais.
Et sauf que c'est ce que dit Howard Zinn, c'est qu'aujourd'hui aux États-Unis, on nous vend l'exact inverse.
C'est ça.
Pour essayer de faire en sorte que ça ne fonctionne plus, ouais. qu'on puisse plus s'unir. C'est-à-dire, hop, chacun dans sa maison.
Et puis c'est surtout qu'on ne parle jamais de ça, quoi. Enfin, bah j'ai l'impression que ça n'a jamais même existé aux États-Unis. Et il parle aussi, alors, d'un super truc, c'est la solidarité entre les salariés, les ouvriers, les ouvrières. Quand ils font des longues grèves, il y a un système de solidarité de garde d'enfants. On peut appeler ça comme ça, qui se met en place. Et parce que faire la grève, ça t'apporte plus de thunes, ça te fait galérer à mort.
Bah c'est clair.
Et que la solidarité se fait sauter en place sur les lieux de lutte. En fait, et les ouvrières envoyaient leurs gamins chez d'autres ouvriers et ouvrières syndiqués ailleurs dans le pays, qui s'occupaient des enfants, qui les nourrissaient, etc., pour que les parents puissent continuer de lutter, quoi. Et c'est génial, quoi.
Mais c'est se rappeler en fait que la lutte, elle est là en fait avant tout, et que aujourd'hui on a perdu de vue cette vision là, et que c'est ce qui nous perd en fait. Et je trouve que il faut apprendre de l'histoire en fait.
Ouais.
Et Howard Zinn, il a l'avantage d'apprendre avec l'histoire de base. Alors il y a des historiens, j'ai appris, il y a deux historiens qui vont faire la même chose, ce qu'ils vont appeler ça histoire
populaire
européenne. En fait, justement, ils sont en train de construire un peu ce qu'a fait Howard Zinn en s'inspirant de la méthodologie de Howard Zinn, parce que finalement on se rend compte, ils en parlent dans le film, qu'on avait les mêmes choses ailleurs dans le monde, et que cette solidarité là elle s'est perdue parce que le patronat nous a divisé autour de notions qui en fait sont des notions purement patronales et purement capitalistes, comme la race, comme le migrant pas migrant, comme le pas pareil, comme tout ça, ça ce sont des mots de pouvoir fait. Et c'est intéressant parce que du coup avec ce film on a un peu secoué, puis on se dit tiens, réveillons-nous.
Ouais. Et alors après je fais une extrapolation rapide, je vais essayer de pas faire long parce que je sais que je peux être long. Non, c'est chaud que ça apporte aussi un, comment dire, des outils de critique, on va dire, tout cas sur ce qu'on nous apporte aujourd'hui des États-Unis. Parce que dans plein de mouvements, etc., on s'inspire d'études américaines, dans plein de genres, etc., dans plein de trucs différents, dans plein de domaines, etc., et que finalement tu te dis ouais, mais attends, parce que ce pays-là, ça n'existe pas, la lutte des classes.
Plus trop.
Et donc, ce qui fait qu'on part rapidement sur, aux États-Unis, quand même, l'ethnicisation des gens, elle est quand même réelle, elle est un fait. Donc, tu dis, effectivement, quoi, enfin, on renvoie chacun dans sa petite, dans ton petit carré, toi, t'es sino-américain, t'es afro-américain.
Et c'est ce que Zinn montre, c'est ce qu'essaye de faire le patronat dès le départ, c'est-à-dire subdiviser la classe, je vais appeler la classe ouvrière, pour faire en sorte qu'elle se tape dessus les unes envers les autres, plutôt que de s'unir face à lui. Et d'ailleurs, c'est la doctrine Rockefeller, ça s'appelle.
Oui.
Il faut écouter Rockefeller.
Oui, et il disait, le peuple ne doit jamais
prendre espoir dans la lutte.
Oui. Et que donc, pour lui, il fallait absolument tuer tout mouvement. Mais
n'importe quoi. Quitte à tirer dessus.
Quel que soit le prix. Hein. Il faut absolument pas que le peuple puisse croire que c'est possible. Et tu dis, oh ouais, voilà.
Et c'est des réalités historiques.
Ah oui, oui, c'est ça.
Il
n'y
a pas de théorie du complot.
Ah non, clairement pas. Non, c'est encore une fois.
Et je vais juste terminer sur une chose, c'est que donc comme on disait, c'est la première partie. Ouais. Donc les Mutins de Pangée ont lancé une souscription, vont lancer une souscription pour la deuxième et la troisième partie. Voilà, et on espère vraiment que ça pourra se faire. Mais vas-y, dis-le.
C'est vrai.
Ouais.
En fait, je voulais donner ça. C'est Daniel Mermet qui l'a écrit. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Les chasseurs racontent des histoires de victoire, des histoires de guerre. Qu'hélas, il faut bien faire pour défendre les faibles et les victimes. Les chasseurs ne font que leur devoir, au nom du peuple, au nom de la démocratie, au nom de la patrie, au nom de Dieu, au nom de la civilisation, contre les rouges, contre les jaunes, contre les bruns. Mais l'histoire que préfèrent raconter les chasseurs, c'est pas d'histoire du tout. À part pour le numéro de leur carte bancaire, les lapins n'ont pas besoin de mémoire. En écrivant une histoire populaire des États-Unis, Howard Zinn a pris le parti des lapins. À part le parti de ceux qui sont à l'autre bout du fusil. Les Indiens devant les conquérants, les esclaves qui fuient dans les marais, les ouvrières pâles dans les usines de textiles, les déserteurs, les militants, les résistants. Car les lapins ne s'enfuient pas toujours. Il arrive même qu'ils profitent du sommeil des chasseurs et qu'ils volent leurs fusils et qu'ils fassent reculer jusqu'au bord de la falaise et même au-delà. Voilà, c'est ça. Allez, on va à la musique. Put your hat on, honey.
and ask Mimi to come and sing Bread and Roses with me. As we go marching, marching in the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill lofts gray, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people hear us singing, bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children, and we mother them again. Our life shall not be sweated from birth until life closes. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching, unnumbered women dead go crying through our singing their ancient call for bread. Small art and love and beauty, their drudging spirits new. Yes, it is bread we fight for, but we fight for roses too. As we go marching, marching, we bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler tend that toil where one reposes.
Et vous êtes bien dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu. Alors c'était Bread and Roses, un hymne syndicaliste et de lutte, justement de l'époque dont on parlait pour le film de Howard Zinn, dont on parlait juste avant. C'était interprété par Joan Baez en concert, avec l'appui d'ailleurs de gens de l'IWW qui étaient présentes, parce que c'était des femmes, pardon, dans la salle. Voilà, donc c'était intéressant de voir ça. Et j'adore les paroles de cette chanson, parce que on se bat pour du pain, mais on se bat aussi pour des roses. Voilà, c'est l'idée que on n'est pas là juste pour manger, on est là pour vivre. Voilà, c'est très très symbolique, mais c'est vraiment beau. Et on voulait juste rajouter avec Jean-Yves que dans le film, vous entendrez parler de plein de gens qu'on ne connaît pas vraiment et qui sont des anarchistes et des anarcho-syndicalistes qui ont œuvré énormément pour la libération ouvrière à travers le monde, et que ça fait du bien pour une fois que dans un film on les cite.
Oui, non mais clairement, je crois que j'étais presque surpris en fait. C'est de me dire, tiens, en fait, là, on parle pas des anarchistes avec des bancs, tout ça.
Ah non,
en fait, on parlait de gens en lutte, quoi. Mm. Et c'est, enfin, vraiment, c'est et très agréable.
Je vous conseille l'histoire de Mamie Jones, je crois que c'est ça son nom.
Je sais plus comment c'est ça.
C'est ça, ouais, qui a jusqu'à 80 ans se baladait sur les barricades. Ou de Joe Hill, qui a eu une fin tragique et terrible, mais qui a su faire de sa mort un acte magnifique. Ouais. Voilà. Alors, je vous laisserai découvrir ça. Voilà.
C'est ça. Eh ben, on va finir rapidement cette causerie avec quelques brèves dans la continuité des rendez-vous qu'on donnait la semaine dernière. Et ben là, on vous donne la suite du programme du mois libertaire, qui est toujours novembre. On s'installe partout. Bonne nuit, Clara.
Personne m'a vu.
Ah ouais, mais moi, j'avais envie de te griller. Et puis moi, il m'a dit, il faut meubler. Alors je me suis dit, allez, je te balance.
On peut y aller.
Bon, vas-y, Fab, tu peux.
Oui, alors donc, oula, attends. Oui, donc c'est, ça continue. Alors là, le prochain rendez-vous du mois de novembre libertaire, c'est le 11 novembre. jour férié, donc vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. C'est Trop jeune pour mourir, ça s'appelle. C'est un film qui est une projection débat. Ce sont justement aussi, ça va dans la continuité du film qu'on a présenté, sont les ouvriers révolutionnaires face à la guerre 1909-1914. Et voilà, c'est en présence de l'auteur Guillaume Davranche et c'est à l'atelier des Canulars. Alors je ne sais pas qui propose ça. C'est Alternative Libertaire qui propose ça. Voilà.
D'accord.
Et donc voilà, c'est un livre qui raconte les gens qui ont décidé de ne pas aller défendre la patrie en danger, ceux qui ont cédé à l'appel et pourquoi. Voilà. Donc c'est toutes ces interrogations qu'on peut avoir dans des contextes comme celui d'une guerre.
C'est ça.
Ensuite, et le jeudi 12 novembre, c'est de nouveau la porte ouverte au LOL, laboratoire lyonnais. J'ai perdu son nom. Alors je ne sais plus comment il s'appelle lui.
Laboratoire... C'est un espace de geek. Quoi.
Voilà, laboratoire ouvert lyonnais. C'est ça ? Non, j'ai une connerie ? Oh là là. Laboratoire ouvert lyonnais. Non, c'est ça, pardon, désolé. Donc le LOL qui est en porte ouverte, mais c'est comme d'habitude, il faut sonner pour pouvoir rentrer à la porte ouverte. Et c'est toujours 7 place Louis Chazette dans le premier. Voilà. Ensuite, vendredi 13, on va en parler de Je mange, donc je suis. C'est le professeur Curcuma. Voilà, je mange, donc je suis.
C'est un spectacle, enfin, c'est un mélange de spectacle, etc., de chansons, de poésie.
C'est ça, ça a l'air d'être tragico-comique bouffon. Bouffonnerie.
Oula,
ils disent une bouffonnerie, je sais pas quand c'est une bouffonnerie.
Si ils le disent comme ça, on peut le dire.
C'est donc un peu bouffon. Mais c'est sympa, je pense. Et donc c'est à la boulangerie du Prado, 69 rue Sébastien Griff, juste à côté de la Griffe. Hein, vous prenez la Griffe, vous continuez la rue, c'est dans la continuité. Et donc c'est de la poésie, des images, de la vidéo et de la bouffonnerie. Donc ça va être vachement bien. Et je te donne le programme pour la suite, Jean-Yves.
Allez, allons-y. C'est quoi la suite? C'est samedi 14 novembre, c'est des visites guidées avec Papy Art, que pas mal de monde sur Lyon commence quand même à connaître, ou connaissent depuis longtemps d'ailleurs, excusez-moi. Je ne voudrais pas fâcher les anciennes connaissances. Enfin bref, tout ça en fait c'est les affiches en sérigraphie et les lieux de leur création, visites guidées des sites militants historiques avec Papy Art. D'ailleurs je me demande s'il n'y a pas une...
Il y a un petit crochet par Canu,
par Radio Canu, ouais. Parce que quand même.
On a un petit peu un lieu militant. Hein,
ça. À ce qu'on dit.
À ce qui paraît.
À ce qu'on dit. Et donc, ça, c'est donc avec Papy Art, le départ se fait au lavoir public qui est au 4 impasse de Flessel.
Voilà.
Dans le premier arrondissement à 15h30.
Vous partez d'en haut, vous arrivez en bas.
Je rajoute juste que l'adhésion au lavoir public est à 2€ et la visite est à prix libre.
Oui, c'est une question d'assurance.
Oui, c'est ça. Voilà, et ensuite, toujours le samedi 14, après cette petite mise en jambe, vous pourrez aller assister à la projection et au débat autour du film « Je lutte, donc je suis » de Yanis Yuluntas. Ça aura lieu à la librairie La Griffe. Il y a une collation à 20h et c'est suivi de la projection à 21h et puis un débat.
Voilà.
Et on a jusqu'au bout de la nuit.
Et si vous n'avez pas pu assister à celle-là, qui est le 14, parce que, celle-là est militante et gratuite, on vous invite, à prix libre plutôt, excusez-moi. Le lendemain, vous pouvez aller voir le film au Comédia, parce qu'il est rediffusé le lendemain, le 15, je ne sais plus, à 15h, je crois, si ma mémoire est bonne, le dimanche à 15h. Voilà. C'est en dehors du mois libertaire.
Oui, c'est ça, mais c'est pas organisé par la Griffe.
Dire que si vous avez raté cette séance-là, cette vision-là, vous pouvez aller le lendemain, j'arrive pas à le dire.
Cette projection.
Enfin, projection, c'est ça le mot que je cherchais.
Non, mais c'est pas grave, ça va, il est tard, on peut comprendre. Le samedi 14, il y a nouveau aussi une porte ouverte au LOL.
Ouais, toujours faut sonner.
Faut toujours sonner, tout ça.
Ça me fait rire cette blague, je trouve. La porte ouverte,
donc,
faut sonner.
Pour le mois libertaire, en tout cas pour la semaine prochaine, la semaine qui est à venir, c'est fini, c'est tout ce qu'on a à vous annoncer. Oui. La suite, ce sera dimanche prochain, on continuera de vous donner, il y a encore pas mal de choses qui se passent. Il y a il y a plein de trucs. Mmh. Et puis on peut peut-être faire aussi un petit
appel à don.
Ouais, un petit rappel de l'appel à don.
Toutes les semaines dans la causerie, on vous le rappelle, la causerie a besoin, non pas la causerie du tout, mais Radio Canu, parce que la causerie ça va, mais Radio Canu a besoin de vous. Et parce qu'en fait on va acheter ici au 24 rue Sergent Blandan, c'est fait, c'est signé. On est même allé voir la banque, elle a été toute gentille avec nous en disant on vous fait un crédit, il y a pas de problème. Enfin les banques elles font rarement pas de crédit. Mais là, elle a a dit oui, d'accord, c'est cool, c'est Radio Canu, enfin voilà. Et pour ceux qui se posent la question, oui, on est au Crédit Coopératif, parce qu'on nous pose souvent la question. Mais là, désolé, bah, c'est une banque soi-disant mieux que les autres. Bon, à mes yeux, c'est une banque, hein. Mais voilà. Et du coup, il faut qu'on continue l'appel à dons, parce ouais. que parce que plus que vous nous donnerez et moins que ce qu'on empruntera. Voilà. Donc l'appel à dons, ça se passe à l'adresse que Jean-Yves va vous donner tout de suite.
C'est ça. Ben vous pouvez faire parvenir vos chèques de soutien à donc déjà à l'ordre de Radio Canu et vous envoyez tout cela à Radio Canu BP 11 01 69 201 Lyon CEDEX 01.
Voilà. Et si vous voulez faire un virement, vous allez sur radiocanu.org. Il y a le numéro IBAN pour pouvoir envoyer vos virements. Mettez un petit mot dans le virement. Vous savez, mettez don.
Alors, oui. J'ai presque envie de vous dire, alors, si c'est par, ouais, effectivement, ouais, par virement, faut dire ça. Et il faut aussi ajouter l'info si vous avez besoin, d'un.
Ouais, d'un reçu fiscal.
C'est ça.
Ouais.
Merci. Pour le déduire à vos impôts si vous en payer.
Et ça, vous pouvez il faut envoyer à l'adresse soutenezradiocanu@radiocanu.org et vous envoyez je voudrais un soutien en reçu fiscal. Voilà.
Voilà.
Avec votre nom et votre adresse, c'est mieux.
C'est ça.
Parce que sinon, on ne peut pas le renvoyer. C'est un truc bête. Hein.
Ben voilà.
Ouais.
Et ben, je crois qu'on a fini.
Oui, alors, on va peut-être juste, avant de se quitter, annoncer qu'on va avoir dans quelques temps une interview dans la causerie qui devrait vous surprendre. Voilà. Et c'est un teaser pour vous donner envie de suivre la causerie régulièrement.
Pas mal. Non mais gars, il va finir sur le service public, un truc comme ça, hein, je te jure.
C'est... Ah, pardon.
Tu vas mal finir, tu vas finir à Radio France, un truc comme
ouais.
ça.
Enfin, bon.
Je te dis pas, mon pauvre.
Oh là là, présenté, comment il s'appelle le gars du matin là, Demorand là. Tu parles. Non mais sérieux.
Voilà.
Non mais pour parler un petit peu de ce qui va se passer. Et puis on vous rappelle que si vous avez des questions à poser à nos intervenantes et intervenants, on leur fait passer. Ça a été le cas pour Georges, on en reparlait la semaine dernière. Et que là, Georges revient justement le 20 décembre. Donc si vous avez des questions à poser à Georges, vous pouvez commencer à envoyer des questions. Comme ça, il pourra y répondre en direct dans l'émission. On dirait qu'il fait de l'astrologie, alors qu'il fait de l'astrologie. Nomie,
ça
n'a rien à voir. Georges le fait.
Georges ne pourra pas vous dire si votre enfant, votre fille, votre garçon pourra se marier dans l'année. Non, c'est pas ça.
Non, mais
truc,
par contre, si vous dites, tiens, il y a eu une info sur l'astronomie et que j'ai pas compris, je voudrais vous la réexpliquer. Bah, Georges, il est OK pour ça. Donc envoyez vos questions à lacauseriecanu@gmail.com et on lui passera et normalement le 20 il répondra.
Ouais. Ouais, parce qu'il est balèze.
Non, mais c'est clair, quoi. Non mais voilà, on a un super astronome, on en profite quoi.
Ben voilà. Eh bien, nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement, si tout va bien.
Et puis le dernier titre, c'est Clara qui l'annonce parce que c'est son choix.
ce sourire.
Ce sourire qui me dit, oh merde, connard, tu fais parler, mais enfin bon.
Voilà, voilà c'est dit.
Ah ouais, carrément quoi. Ok.
Donc on se quitte avec Ludovico Einaudi et le titre Divenire.
Ah, c'est ça.
Ça fait bien planer.
Eh ben, on vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit aussi, et puis bon courage à toutes et à tous.
Ouais, bon courage.
Bye bye, ciao.